Radio Classique, les spécialistes.
Voilà les spécialistes, nous sommes avec Dimitri, évidemment, que vous connaissez et que vous écoutez depuis ce matin. Pour la matinale écho, Dimitri, on va parler de la 5G dans un instant, mais avec Emmanuel Faux. Et avant, le journal imprévisible qu'il ne faut pas rater concernant le cas assez particulier de Ségolène Royal qui reçoit des messages, nous allons parler avec vous, mon cher Emmanuel, du drame humain des migrants repêchés en Méditerranée, car cette affaire n'en finit plus de continuer, si je puis dire. Le navire Océan Viking en transporte actuellement 180 et il a tourné en rond pendant 10 jours avant d'obtenir une autorisation de débarquement.
Oui Guillaume, mais ce navire ambulance est affrété par SOS Méditerranée qui a pourtant une longue expérience d'ONG dans ce type d'opération de recueil et de secours des migrants et l'organisation affirme qu'elle n'a jamais eu affaire à une telle détresse collective à bord de l'un de ses bateaux. Il y a 11 jours, le 25 juin précisément, l'Ocean Viking commence à repêcher des migrants en perdition dans les eaux maltaise et italienne, et qui avait sans doute entrepris une traversée en mer au départ des côtes libyennes sur des embarcations de fortune. Au total, le navire réalise 4 opérations de repêchage entre le 25 et le 30 juin. Dans le premier jour, rien à signaler, les choses se déroulent à peu près dans le calme à bord, malgré la présence de 180 hommes, femmes et enfants. Et puis, la situation soudain va se détériorer. Certains migrants, notamment des Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains, deviennent agressifs et s'en prennent à des membres de l'équipage. 6 d'entre eux tentent de se suicider en se jetant à l'eau. L'urgence est alors décrétée. Un médecin qui a pu monter à bord du bateau pendant une heure ou deux ce week-end se retrouve face à des passagers à bout de nerfs, chauffés à blanc. Mais ce médecin va réussir à calmer l'impatience et la nervosité des migrants, leur faisant miroiter un débarquement prochain sur la terre ferme. Pendant ce temps, l'Ocean Viking continue d'essuyer refus sur refus d'accoster. Les autorités des pays sollicités mettent en avant les risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19. Et puis hier, la presse italienne annonce un feu vert de l'Italie pour que le bateau humanitaire puisse enfin débarquer ses passagers dans un port sicilien, et ce sera sans doute dans les toutes prochaines heures. Les migrants qui ont été testés hier au coronavirus devraient être ensuite transférés sur un autre navire, où ils seront placés en quarantaine pendant environ 2 semaines.
Voilà, ce genre de situation n'est pas nouvelle, mais ça pose évidemment le problème de l'attitude globale des pays européens en cas d'urgence absolue.
Oui, et SOS Méditerranée ne cache pas sa colère. L'organisation dénonce le silence absolu des Européens pendant plus d'une semaine sur cette affaire. Elle estime qu'en s'abritant derrière la crise sanitaire pour fermer leurs ports, certains États ont clairement violé le droit maritime international et mis ces migrants en danger de mort. Vous savez qu'en principe, les Européens se sont engagés à être solidaires en cas de demande de débarquement humanitaire. Le pays sollicité le plus proche doit accueillir les migrants en détresse, quitte à décider de leur sort une fois qu'ils sont hors de danger. Les mésaventures de l'Ocean Viking signifient qu'il va peut-être falloir mettre en place des règles plus contraignantes pour la prise en charge des migrants secourus en pleine mer. La crise sanitaire n'est pas encore terminée, que cette crise des migrants ressurgit avec toutes ses interrogations.
Tout à l'heure avec Guillaume Tabar, qui est aussi un de nos spécialistes à 8h15, nous verrons si le remplacement d'Edouard Philippe par Jean Castex est le signe qu'Emmanuel Macron veut faire du Premier ministre un simple collaborateur, comme la formule avait été, vous vous en souvenez, signifiée par Nicolas Sarkozy, à l'égard évidemment de François Fillon. Passons maintenant au dossier de la 5G, qui est devenu non seulement un dossier économique, parce qu'il est soutenu par le ministère de l'économie pour la relance en France, mon cher Dimitri, mais qui est devenu un dossier éminemment politique et industrielle. Politique parce qu'en gros, tous les maires écologistes partent vent debout contre la 5G en gros en disant que ça ne sert à rien si ce n'est à regarder des films porno dans les ascenseurs. C'est ce qu'a dit exactement le maire de Grenoble. Donc je ne cite pas, je suis en train d'inventer une sorte de...
Ah, c'est une citation, c'est vrai.
Oui, voilà. Et d'autre part, vous avez de l'autre côté aussi un certain nombre d'opérateurs qui eux aussi sont vent debout parce qu'ils dépendent les uns ou les autres. Alors ça dépend évidemment des cas. Soit évidemment d'antennes européennes, soit d'antennes qui viennent de Chine. Mmh. Et donc le dossier est complexe et ce matin, vous nous le dévoilez.
Et oui, effectivement, ce que l'on apprend ce matin, c'est surtout ce que sera la position, la doctrine de la France vis-à-vis justement de ces équipementiers. Il y en a 3 dans le monde, vous le savez, il y a les Européens Nokia, Ericsson et le chinois Huawei. Que va-t-il en être de Huawei? Eh bien, c'est dans les échos qu'on lit ça ce matin. Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, s'exprime et il explique ce qu'est la doctrine de la France. Et alors, il a des mots très crus, Guillaume Poupard. Enfin, d'un côté, c'est très clair ce qu'il dit, et de l'autre, c'est un chef-d'œuvre de voltige. Je vais vous en lire des passages. Je pense que ce sera plus parlant qu'un commentaire. Il dit, Guillaume Poupard, que tous les équipementiers télécom, d'abord, ne se valent pas. Je ne cite pas de nom, dit-il, mais il est clair que l'on n'est pas dans les mêmes risques quand on parle d'équipements chinois ou américains. Nous sommes prudents vis-à-vis des équipementiers non européens. Bon, jusqu'à preuve du contraire, les Américains sont non européens, mais la prudence, elle est de mise surtout vis-à-vis des Asiatiques, et donc, vous l'aurez compris, de Huawei. D'ailleurs, quand les échos lui posent la question « Y aura-t-il des équipements refusés ?», il répond « Oui, il y aura des refus qui seront prononcés à l'encontre des opérateurs qui ont soumis dans leur proposition des équipements chinois. Il y aura des refus. Question des échos, est-ce que Nokia et Ericsson sont concernés par les refus ?» Réponse de Guillaume Poupard, très lapidaire, non. Répond donc les échos enchaînent, c'est donc bien Huawei qui est ciblé, et lui répond, nous ne sommes pas dans du Huawei bashing. Ah bon, pourtant ça paraît quand même assez clair que c'est le chinois qui est ciblé par ces interdictions. Est-elle totale? Est-ce que les opérateurs télécoms qui ont fait le choix de Huawei, c'est le cas si, par exemple de...
Des FR et de Bouygues.
Voilà, et de Free également. Est-ce qu'ils vont être interdits totalement? Non, il n'y aura pas de bannissement total de Huawei. Cela dit, Huawei sera sans doute cantonné aux régions non stratégiques, c'est-à-dire pas dans les cœurs de réseaux télécom, pas non plus dans les grandes villes où il y a des intérêts économiques trop importants pour qu'on laisse subsister ce doute d'espionnage. Vous savez, le fond de l'affaire, c'est ça, c'est que certains pensent que dans les équipements Huawei, il y aurait des sortes de portes dérobées permettant à Huawei d'opérer pour le compte des autorités chinoises et donc de faire de l'espionnage. C'est un vrai casse-tête quand même pour les opérateurs qui, pour certains, ont misé sur Huawei depuis des années parce que c'est du très bon matériel techniquement et c'est aussi moins cher que les équipements européens. Est-ce qu'ils vont devoir tout démonter? Alors l'ANSSI va leur laisser du temps, entre 3 et 8 ans, mais bon, c'est un vrai casse-tête pour ce sujet de la 5G.
La décision est prise en septembre.
Alors, c'est même imminent, là, en fait. Ce que dit Guillaume Poupard, c'est que là, c'est pour d'ici quelques jours, il y aura une réponse qui va être apportée aux opérateurs de ce qu'ils pourront et de ce qu'ils ne pourront pas faire. En tout cas, pour la 5G, c'est vrai que ce sujet Huawei, qui en fait montre à quel point nous sommes pris en étau entre d'un côté les Chinois qui font pression pour que l'on n'interdise pas Huawei, et de l'autre les États-Unis qui quand même ont placé l'entreprise sur leur liste noire, et donc l'entreprise est soumise à des sanctions très importantes. Et puis tout ce débat politique, ce débat national qui est en train de naître autour de la 5G. Alors effectivement, il y a la question de l'utilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des débits encore plus importants?
C'est la question sanitaire aussi. Il y a une enquête qui a été commandée par Elisabeth Borne et Olivier Véran.
Commandée par l'ANSES. Nouveau maire de Bordeaux, Pierre Hermic, lui, il souhaite geler complètement le dossier de la 5G tant qu'on n'a pas ces fameuses réponses. Donc vous voyez, c'est un vrai casse-tête. La 5G, c'est sans doute pas pour dans les 6 prochains mois.
Il est 7h46 sur l'antenne de Radio Classique. Les spécialistes continuent. Nous avons rendez-vous avec le journal imprévisible. Et nous allons vous parler d'une affaire en marge du remaniement qui est peut-être évidemment une des affaires, disons, les plus cocasses de la semaine, qui est une semaine qui ne fait que commencer, celle de Ségolène.